L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Avec les gens de la mer comme signe de l'Église dans un engagement d'humanité, nous retrouvons l'abbé Michael Epalsa, prêtre aumônier des pêcheurs, pour la seconde et dernière partie de son témoignage.
Je vais être embarqué dans une autre énorme aventure. Et j'ai pas assez d'une journée pour vous expliquer cette autre aventure. Pêcheur d'hommes. Déjà, on a vu qu'à bord, on peut devenir. Mais là, c'était des appels très précis. Parce que l'aumônier de Passages, mon ami Pelio de Roncho, était mort d'une crise cardiaque à 60 ans. Et dans le groupe des femmes de marins qui suivaient, me demandent de les accompagner. Et puis, j'avais fait... Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ça, ça aussi c'est important, savoir se pesant d'or quand même. 2 mois au thon, en Méditerranée, avec un bateau de l'Equitio, le Torontello. Il fallait un canneur, bon, alors... Tu navigues avec les Français, mais pas avec nous, viens avec nous, donc... Depuis mi-octobre jusqu'au 22 décembre. Et bon, je ne vais pas vous raconter les 2 mois parce que c'est beau si c'était avec 12 bateaux de l'Equitio plus 3 de Bermeo. Et à chaque bord, on était 14. Et on était derrière le thon, en Méditerranée, allé jusqu'au. Vers Barcelone et puis les Açores, l'Algérie et tout ça qu'on naviguait pas mal là. Et on débarquait le thon à Almeria. Bon, et un dimanche, le patron, un ami, José, il me dit, ta tante, on a un télégramme comme quoi ta tante, une sœur d'Aïta, une sœur de mon père, était décédée. Et un autre pêcheur aussi avait perdu son frère. Bon, nous on était en mer, les obsèques avaient eu lieu, etc. On a réfléchi entre les patrons et on a décidé que tu pouvais célébrer la messe. T'es sérieux ? Oui, on a décidé, il faut que tu célèbres la messe, mais pas à l'église, hein, ici, sur le port. Parce qu'entre le port et l'église, il y a 3 bistrots. Donc, il n'y a aucun qui va arriver à l'église. Ils vont rester au bistrot. Donc, tu te débrouilles, mais par contre, va à l'église et là, tu dois demander au curé un calice, une étole. Parce que moi, j'étais en bleu, quoi. Parce que, à bord, on vit dans des couchettes et on n'a même pas une armoire chacun. On a un sac, il n'y a pas de costume, là. Il n'y a pas ni d'aube. J'avais le prieur en église, le chapelet, et tout. Alors, je dis à des copains, bon, ben, prenez des caisses d'anchois, et puis on va faire un hôtel avec la voile et tout ça, un autre amène une vierge qui colle, etc. Bon. Alors je monte à l'église, Iglesia San Pedro de Almería, qui est sur le port, et avec un gars du bord, un jeune, et j'attends la fin de la messe, et je dis au curé, voilà, on est tout un groupe, on va célébrer la messe en bas, on vous invite à venir, mais est-ce que vous pourriez me prêter un calice et l'aube, si vous avez une aube, au moins une étole, quoi. Ah, il me dit, non, c'est trop, faire trop confiance, écoutez, je vous laisse mes papiers, j'ai 500 pesettes, c'est tout, et vous me les rendez après, s'il vous plaît, bon, mais... Non, je vous donne pas, c'est faire trop confiance, mais venez avec nous, comme ça vous allez les connaître. Non, j'ai autre chose à faire, ce sera bon. Et donc je repars bredouille là-bas, de l'église, et en sortant de l'église, je lui ai dit, tu as vu le patron ? Quand tu vas arriver au ciel, il va te foutre un coup de rame, toi tu vas voir. C'est comme ça que tu traites les pêcheurs ? Bon, il est devenu blême. Et le copain, le jeune, qui connaissait tous les bistrots, il me dit, mais t'inquiète pas, Michael, je vais trouver une jolie coupe de champagne, là. Enfin, il avait trouvé une coupe, et ben, on arrive au port. Il y avait tous les pêcheurs qui étaient là. Les mousses, les patrons, je sais pas, il y avait 150, 200, quoi. Et autour de l'hôtel. Et donc, je commence la messe, Euskaraz, en biscayen, bien sûr. Et au milieu de la messe, au milieu de l'élévation même, avec cette petite coupe, et j'avais lu l'évangile donc, que je commentais tout à l'heure, l'histoire de je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, parce que c'était la fête de Saint-André, le 30 novembre. Et au milieu de l'élévation, il y a une mobilette qui arrive avec, vous savez, les Andalous, ils sont chaparritos, ils sont petits, trapus, costauds. Il est avec sa mobilette, son béret enfoncé, et le pneu qui touchait la caisse. Et puis moi j'étais là, tout le monde était là, personne ne bouge, et l'Andalou qui me demande « Que pasa aquí? Hay un muerto en la caja ?» Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ici en mort dans la caisse ?» Bien sûr, on ne dit rien, on continue. Et après la messe, bien sûr, on a chanté la Salve Marinera, la Vierge à la Vierge, le Gudeïta, et tous les marins étaient hyper heureux, hyper heureux. Téléphoner chez eux, on a fait la messe, tout ça, avec Michel. Bon, ça a été un moment très fort. Cette messe, elle est unique, quoi. C'est un cadeau de Dieu. Il y a des moments comme ça qui sont extraordinaires dans des cadeaux qui aident à avancer. Dieu nous devance, hein, vraiment, dans le monde. Quand on va dans le monde, il nous devance, il est là. Il nous attend sous l'habit du mendiant ou du pêcheur ou des personnes qu'on rencontre, quoi. Et celui qui avait installé les caisses, c'était un ancien bois sans soif qui était plongé dans l'alcoolisme et qui est devenu président des alcooliques anonymes. Donc c'était des gens, quoi, qui ont apporté tout ça. Pour vous dire que autour de toutes ces navigations, un passage dans les ports, donc pour aller de l'autre côté à Gibraltar, tout ça, ils passaient par Bigot, donc rencontrer d'autres, des laïcs, des femmes de marins, etc., des jeunes. Et là, je me suis lancé donc dans cette grande aventure, c'est le soutien aux associations. C'est comme disait mon copain de Sardolone, qui avait navigué aussi, il dit, Jésus, il m'a dit, va voir en mer si j'y suis, et figure-toi, je l'ai trouvé. Bon, moi aussi je l'ai trouvé, mais là il me dit, va voir si j'y suis, mais avec les femmes de marins, et avec les jeunes marins, et avec les marins de commerce. Donc ça sera autour de toutes ces escales, il y a des appels qui se sont faits, comme moi j'étais pas forcément prêtre ouvrier, j'étais prêtre embarqué, mais au service du monde maritime, donc je réponds à ces appels. D'abord les jeunes, des jeunes de côté de la frontière. Là, il faut que je fasse très très brièvement. Pourtant, il y aurait des milliers de choses à raconter, parce que on commence par une enquête comme le père Lebré. Jeune marin, qui es-tu et que veux-tu? Norsirat a Cernaidoso. Quién eres y qué quieres? Qui es-tu et que veux-tu? Une enquête qui a été faite au Pays Basque avec l'aide du gouvernement basque qui trouvait notre action très importante par rapport à des centaines de jeunes qui, entre le thon et l'anchois, se trouvaient désœuvrés, c'est-à-dire à partir de décembre, janvier et février, pendant 3 mois, et marqués surtout par l'alcoolisme, et la drogue surtout. Et là, on faisait des propositions pour qui sortent de ce cycle-là et qui deviennent, qui prennent un peu leur loisir aussi en main. Et donc on fait cette enquête, et les Français, la jeunesse de la mer française s'intéresse à cette enquête, et on va, déjà pour la réaliser, ça demande beaucoup de travail pour réaliser le questionnaire, et on a réalisé ce travail sur 670 jeunes qui ont répondu au total, que ce soit au Pays Basque, Sud, Nord, la France et dans les trois langues. Importante enquête. Et dans cette enquête, on s'aperçoit que les jeunes, leur ambition, c'était pas de gagner des sous, mais de vivre heureux, de vivre et d'avoir une formation. et de prendre soin de la mer, d'apprendre, même apprendre l'anglais, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans cette enquête. Ils voulaient prendre leur place dans la société. Et donc, on organise une association, Euskadi Koitzer Gaztedia, qui est lancée à Guétali en 91. Et deux mois après, on lance l'association Koitzer Gaztedia Saint-Jean-de-Luxembourg, avec 80 jeunes, 85 qui étaient sur 32 chalutiers, 27 ligneurs, 14 sur les fileyeurs, 10 sur Bollinger, etc. Donc, ces associations, pour faire connaître, parce que pour une fois, ces jeunes, ils prennent la parole, et que cette parole soit connue. Donc, ils nous demandent de faire une revue. On fait une revue de l'autre côté qui s'appelle Tcho, où on parle de leur vie, où ils parlent eux-mêmes de leur vie. Et de ce côté-ci, c'est Altchamoutilak. Altchamoutilak qui commence avec l'expression de ces jeunes, le résultat de cette enquête, et ceux qui vivent en mer, de façon à ce qu'ils prennent la parole dans un univers où ils n'ont pas leur place. Les jeunes n'ont pas leur place, tout s'était décidé à leur place, quoi. Donc cette association est lancée. Ça sera le journal qui deviendra pour moi un énorme travail puisqu'il y en a eu 10 Altchamoutilak, dont le dernier qui fait 420 pages sur toute l'histoire maritime avec des collaborateurs de valeur comme Cochet Vazurko, ancien président de la coopérative Itchachokoa, qui avait une mine de documents chez lui et qui nous a permis de montrer toutes ces photos de Dakar, de toutes les expériences qu'il y a eu ici, et en plus donner la parole aux femmes de marins, aux anciens, aux assistantes sociales, aux associations, faire connaître, quoi. Voilà. Ça a été pour moi un énorme boulot, hein, de rédaction, et il y a un numéro qu'on va vous donner, qu'on a fait à partir d'une autre action énorme. Mer propre. Alors, mer propre. Vous savez que maintenant, les pêcheurs ramènent, j'en ai vu dimanche, justement, j'ai baptisé deux enfants d'un pêcheur, et il y avait l'équipage qui était là. Est-ce que vous ramenez les déchets à quai? Oui, on ramène les déchets à quai. Mais ça, on avait commencé ça en 94. À partir d'une réunion, un gars d'Ondarroa qui nous dit, moi, j'en ai marre de rejeter à la mer une poupée sans tête. Il y avait une poupée sans tête qui venait sur le pont, une fois que tu lèves le filet, tu étales le poisson, la poupée sans tête. Allez, botai chachora, on jette la poupée, et au prochain trait de filet, allez, encore la poupée, on la rejette, et encore la poupée. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut pas ramener à terre, là, tous ces... Mais tu as tout à fait raison. On peut ramener à terre. Parce que personne ne ramenait les déchets à quai. Quand vous voyez le paquet, je sais pas si vous avez regardé le... Quand un bateau embarque pour une semaine au large, il y a un paquet de plastique, de vivres, de bouteilles, d'étrabriques, de boîtes de conserve, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on ramène? Le poisson. Et le reste, il est où? Eh bien, il est au fond de la mer. Et alors là, on commence cette action. Ramener les déchets à quai. Et ça commence de Bilbao jusqu'au Verdon, avec le soutien du gouvernement basque, de la région Aquitaine, avec des pêcheurs, des jeunes qui deviennent responsables, pêcheurs d'hommes qui deviennent responsables de... Et moi, là, ils me convertissent. C'est-à-dire, à bord, sur les 8 ans que j'ai fait en mer, je passais beaucoup de temps, en plus de mon travail de matelot, à cuisiner, parce que tout le monde n'aime pas cuisiner à bord. À terre non plus, d'ailleurs, enfin, il y en a qui n'aiment pas. Mais à bord, bon, comme je faisais des camps et tout ça, ça ne me gênait pas de cuisiner, bon, j'aime bien. Donc je faisais la cuisine. Eh bien, en parlant avec ces pêcheurs, et à partir de cette action mer propre, j'ai pris conscience que j'étais un vrai salopard. Parce que je jetais tout, comme les autres cuistots d'ailleurs, hein, tout par-dessus bord. Les boîtes de conserve, les tabriques, tout, les huiles usées, tout. Parce que la mer, elle reste bleue, ou grise, ou verte, selon l'humeur du temps. Mais au fond, tout reste au fond. Puis tu prends conscience, mais c'est l'océan qui me donne à manger. Mais comment je peux jeter tout ça sur mon garde-manger, sur le poisson? Qu'est-ce qu'il a fait, le poisson? Il ne mérite pas ça, quoi. Donc c'est toute une conversion qui se fait dans ma tête et dans nos têtes. La tête des jeunes aussi, et qui deviennent, et ça c'est le côté extraordinaire, de cette action. Avant Nicolas Hulot, hein, on est fort, il me disait Laurent, hein, avant Nicolas Hulot, t'as vu un peu ce qu'on a fait, bon. Et ça continue. Et je tiens à ça, je tiens à ce point important, qui est le déclic. Déclic. La poupée sans tête. Là, on avait marre de la poupée, de garder la poupée sans tête. Et il se dit, il faut qu'on ramène les déchiaqués. Le déclic, prise de conscience. Et ensuite, un projet avec des institutions. Et l'apostolat de la mer peut servir aussi, faire le lien pour mettre en place des projets comme ça. Et à partir de là, eh ben, on a fait le livre, ce livre que je vous invite à prendre, on vous l'offre, hein, c'est les poissons alertent les humains. Vous pouvez donner à vos enfants, vos petits-enfants, vous le prenez à la sortie. Et ce livre a été distribué à 66 000 exemplaires, à tous les 6e, 5e, sud des Landes, et puis ici, dans tout le 64. Et beaucoup plus largement aussi, il a été traduit aussi, il y avait une affiche sur la biodégradabilité des produits en mer qui a été traduit en plusieurs langues, etc. J'abrège sur ce. Voilà, une énorme action avec les jeunes. Ensuite, on a fait une coopérative. Quand Claude, un marin pêcheur qui est en train de mourir d'un cancer du poumon, et au moment où on allait en mer, je l'avais vu la veille, je sais, il n'avait pas duré, il habitait à la cité ouvrière à Sokoa. Et il me dit, prends soin de mon petit frère, c'est un branleur, mais il fera un bon pêcheur, essaie de l'aider. Et lui, il avait 32 ans, ce cancer du poumon. Et j'allais le voir de temps en temps quand il était malade, je lui glissais sous l'oreiller le mancha qu'on me donnait, que les bateaux des fois me donnaient, parce que c'était une famille, c'est lui qui travaillait. Et sans lui, ben, il n'y a pas d'argent qui rentrait dans la famille. Et donc, ce matin-là, il faisait très mauvais et on n'est pas parti en mer. Et je suis allé à son chevet, et il est mort dans mes bras en regardant un oiseau. Et donc, je me suis occupé de son frère qui avait pris la suite du bateau, qui s'appelle le Moution, qui continue à naviguer. Et maintenant, c'est le neveu de son frère qui prend la suite du bateau, ils sont deux à bord. Et je veux parler de ça, pourquoi? Parce que quand on a installé les pontons à Saint-Jean-de-Luz, un jour, il y avait un des pontons qui est devant le quai de l'Infante, là, un peu plus devant chez la famille Tourade, justement, là, un ponton qui s'est rempli d'eau et qui a coulé. Et en coulant, il a, boum, les bateaux qui étaient amarrés, ils sont allés au fond. Sauf deux qu'un pêcheur a pu les couper vite, les amarres, mais le bateau, le Moution, est allé au fond. Et donc, je vais voir l'association de soutien à la pêche pour qu'on puisse les aider et financièrement pour se remettre à flot, etc. Il me dit, nous, on n'aide pas les pêcheurs parce qu'ils vendent le poisson à Passarès. Je lui ai dit, c'est un petit bateau, ils vendent pas à Passarès, etc. Allez, faites quelque chose, faites un geste. Bon, refus, et du coup, j'ai lancé moi-même en lien avec la caisse d'épargne, et par la suite, il y a un gars que vous connaissez à Saint-Jean, Jacques Hospital, et qui est une des chevilles ouvrières maintenant de cette petite coopérative qu'on appelle Balchan, c'est-à-dire ensemble. On avait commencé avec 40 000 euros d'aide, et c'est la Caisse d'épargne qui nous avait avancé ça pour soutenir la pêche responsable et pour soutenir les jeunes. Et on en est maintenant à 65 projet aidé, c'est-à-dire on leur avance 5 000 euros pour leur bateau, pour ceux qui veulent, ce dont ils ont besoin pour le bateau, et ils remboursent à raison de 1%, 1% de la vente en criée. 5%, 5% de la vente en criée à partir du 6e mois. Donc c'est des conditions plus qu'acceptables. Et on en est au 65e projet aidé. Là aussi, bon, une action qui porte du fruit à partir d'un déclic, à partir d'une volonté, à partir d'un projet. Voilà, ça c'est avec les jeunes. Il y a eu encore d'autres actions, mais je veux, si vous permettez, insister maintenant sur la place des femmes des marins. Les femmes des marins m'ont fait beaucoup naviguer. Et je dis pêcheurs d'hommes et pêcheurs de femmes. Je peux vous le dire. Parce que la première rencontre internationale des femmes de marins en 88, ça s'est tenu à La Rochelle. Et 36 femmes de marins de 10 ports différents, de la Galice, du Pays Basque, de Charente, de tout le littoral français, et se rencontrer. Voilà. Ils me disaient, toi, tu sais ce qu'il faut faire, dis-nous. Moi, je dis, moi, j'en sais rien. Moi, je sais qu'en vous, il y a une force. Et on peut se rencontrer. Et donc, c'est ce qu'on a fait à La Rochelle. C'était le 25 mars. Là aussi, 25 mars. Bon. On a lu l'évangile. L'évangile, pas de l'Annonciation, mais c'est l'évangile de la Visitation, parce que c'était la rencontre entre les femmes. Et on a fait un partage d'évangile magnifique. Et là, c'était les femmes, c'était pas il y avait un autre prêtre de La Rochelle, et puis moi je faisais les traductions, mais c'est elle vraiment qui était c'est pas des grenouilles bénitiers, quoi, c'est raconter leur vie, quoi, hein. Et leur différence, les Françaises étaient beaucoup plus, deux fois mieux logées socialement que les autres, au niveau des aides financières pour les enfants, pour la maison, etc. Mais elle sentait qu'il y avait un point commun devant les tragédies de la mer. Il y avait 150 morts à l'époque, au large de la Galice, on appelait la Costa do Morte, 150 morts par an. En France, il y en avait 25. Donc, mais ils se rendent compte qu'ils sont en face des mêmes peines, des mêmes drames. Et quant aux conditions de travail en mer, qu'elles pourraient faire quelque chose ensemble par rapport à la sécurité. Et petit à petit, il y a ce mouvement qui se met en place, un tas de préjugés qui sont tombés. Et il n'y a pas d'un côté les riches françaises, de l'autre les pauvres espagnoles, mais des battantes, très respectueuses les unes des autres, avec une volonté très nette d'avancer ensemble. Des mamans, des femmes obligées d'assurer plusieurs fonctions, puis des veuves aussi, qui racontent leur misère, comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai qu'en Galice, quand j'y allais, je voyais des bateaux, des poubelles, et quand il y avait un inspecteur qui venait, il y avait tout qui était réglo, tout était réglo. En fait, il y avait une société qui vendait bombards et tout ce que vous voulez pour la sécurité, et eux, le bateau louait ça pour la semaine, et après, ils le remettaient au magasin, quoi. Et donc, quand on se retrouve au large, ben, si on n'a pas de bombard, ben, le bombard, c'est ce qui nous permet de se sauver, ou les fusées, ou tout ça, quoi. Hein. Voilà. Cette journée a été extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il y a eu une rencontre organisée à l'archevêché de Bordeaux, avec un type qui croyait beaucoup à l'Europe, qui avait une pastorale bien ancrée dans la société, qui s'appelait Monseigneur Jacques David, avec qui j'avais beaucoup échangé. Et on avait fait venir des évêques du côté espagnol et du côté français. Et du coup, ils avaient impulsé cette Europe, parce qu'il y a une Europe du marché. Dans l'Europe du marché, l'Europe des marchands, comment faire l'Europe des personnes? Et donc, les évêques nous ont dit, mais il faut que vous continuiez. Moi, ça m'a été un peu une confirmation de ce travail de lien, parce que moi, j'avance à l'aveugle, il n'y a rien de déterminé. Et avec les jeunes, avec les femmes de marins, Donc on se sent encouragé. Et donc l'autre rencontre, on le fait dans le port de La Guardia, qui est frontière avec Portugal, en Galice. Je ne vais pas raconter toutes les rencontres qu'on a fait, 10, hein, bon. À Noirmoutier, partout, bon. Et une salle comble, je ne sais pas, il devait y avoir 200 femmes de marins. Mais là-bas, à La Guardia. Et alors, elle nous pose la question, demande à l'Assemblée ce qu'elle devrait faire pour être plus solidaire. La question qui est posée. Personne ne répond, bien entendu. N'ose avancer. Alors moi, chez vous, est-ce qu'il n'y a pas un besoin, une injustice, un problème ? Parce que la solidarité, c'est en réponse à un besoin. Ils répondent, non, ici tout va bien. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un événement, un fait qui vous ait fait réagir ? Ben non, tout va bien. Et puis, il y a une jeune maman, femme de pêcheur, 28 ans à peu près, elle se lève et nous dit, mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, est descendu en mer cet hiver, devant l'Argentine, dans la mer des Malvines, quand il naviguait sur les grands chalutiers qui partaient 5 mois. Il est mort sur le chalutier. Bon, voilà. Alors je me demande, comment ça a été vécu la mort de ton frère ? Comment on l'avait vécu ? Eh bien, comme d'habitude. Comment, comme d'habitude ? Eh bien, il faut attendre la fin de la campagne pour retrouver le corps. Le corps de mon frère a été débarqué 3 mois plus tard, en même temps que les merlus congelés. Bon, je laisse le silence. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pêcheur soit traité pareil qu'un merlu congelé ? Trouvez normal que la famille doive attendre 3 mois pour faire le deuil, parce que s'il n'y a pas le corps, il n'y a pas le deuil. Ah oui, mais, ah oui, maintenant qu'on réfléchit, c'est vrai que c'est pas normal. Et là, paf ! Le fameux déclic. Tant qu'il n'y a pas de déclic, ben il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'éveil de conscience. À force de se résigner, on trouve normal qu'un pêcheur soit traité à l'égal d'un merlu congelé. Et donc, la prise de conscience devant l'inacceptable, c'est ça qui peut générer une mobilisation. Et ce soir-là, les femmes de marins ont écrit, avec le curé qui était présent d'ailleurs, en soutane, ils ont écrit un article sur le journal en disant que ce qui s'était passé n'était pas humain, que ce n'était pas normal et qu'il fallait réfléchir à l'avenir, etc. Bon. Voilà, toutes ces rencontres, ça a été des moments très forts de prise de conscience. Il y a eu une grande rencontre à Noirmoutier où le thème c'était la famille du marin du bateau à la maison et de la maison au bateau, c'est-à-dire tout ce qu'on vit en mer a des conséquences à terre. Le gars qui rentre haché à la maison avec des journées pas croyables ou des semaines pas croyables, il peut pas exercer comme père, comme papa, c'est pas une personne à part entière. Donc, inviter les groupes de femmes de marins à agir sur les conditions de vie à bord, sur le repos, sur la sécurité, tout ça. Et avec ça, on est allé en Europe. On a fait plusieurs rencontres au Parlement européen. On a fait des propositions. Vous donnez de l'argent aux armements pour que leur bateau fonctionne, mais vous ne regardez pas si ça fonctionne socialement. Donnez pas d'argent aux bateaux qui ne respectent pas les normes sociales minimum. Mais on n'est jamais arrivé à ce stade-là parce que, encore une fois, c'est l'Europe des marchands. Et ça a été difficile. C'est comme dans un mur, quoi. Ils ont octroyé quelques euros pour qu'ils fassent des stages, etc. Et localement, c'est l'association Ouaina qui a organisé la 7e rencontre. Et c'était l'association Mission de la Mer, des veuves de marins, qui ce jour-là est devenue Ouaina pour organiser cette rencontre à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Alors, moi, je pense que j'ai été béni entre les femmes de marins. C'est vrai, hein ? J'étais béni. Et je rends grâce pour tout ce que j'ai pu vivre, tout ce qu'elles m'ont fait vivre, des choses très, très fortes, quoi. Hein ? Et béni par leur présence. Et je souhaite que dans la société, elles soient beaucoup plus présentes, que dans l'Église, elles soient aussi beaucoup plus présentes. C'est anormal. On a décidé, je ne sais pas qui a décidé que le bon Dieu était un barbu mâle. Le bon Dieu, il est aussi mâle que femelle, il est amour, il a un cœur, il est... Et il est temps que les femmes aient leur place entière, et dans l'Église, et dans la société. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu avec elles, avec tous ces groupes de femmes de marins, elles ont alimenté mon sacerdoce et ma vie pastorale. J'étais pas là pour ce qu'il fallait faire, mais pour, avec elles, avancer sur ces chemins de partage. Voilà. Et je rends grâce aujourd'hui. Je dirai deux mots. Deux mots sur une autre action énorme. Une autre action énorme. Celle de créer le foyer des marins pour les marins de commerce au port de Bayonne. J'allais de temps en temps à Bayonne pour accueillir les marins qui étaient à bord pour monter, les visiter. Et un été, je vais au quai du Soufre, c'est du côté d'Anglette, là, et je rencontre un marin de commerce qui s'appelait un Philippin, Andrew, qui me dit « Where is the Seaman's Club ?» Il voulait aller à Lourdes, il avait un tas de demandes à faire, mais je lui dis qu'il n'y a pas de Seaman's Club, chez nous, on n'a pas de foyer de marin. Et puis il me dit, mais c'est très important le foyer de marin, c'est notre maison à nous. S'il n'y a pas le foyer de marin, on n'a pas de maison au port. C'est là qu'on va pour se parler à la maison, téléphoner. Et écoute Andrew, je te promets que le prochain coup que tu viennes, il y aura un foyer. Et c'est là, Andrew, ça a été un autre appel. Engage-toi dans cet autre appel, un foyer des marins, comme ça, paf. Donc j'en parle autour de moi, j'en parle aux pilotes, j'en parle aux paroissiens, aux curés qui étaient autour du port d'Anglette, Bayonne, Boucau, etc. Et avec l'évêque de l'époque, Pierre Moller, qui fait partie aussi de ceux qui ont cru à ce foyer. Au début, ils voulaient que ce soit un foyer catholique, mais je dis, mais non, pas catholique. Dans le monde est ouvert et on est en France. Et en France, il y a la loi de la séparation de l'Église et de l'État, donc il faut travailler par la voie associative, donc permettre à tous ceux qui veulent accueillir des marins, quelle que soit leur religion, qu'ils puissent le faire au nom de la fraternité maritime. Et nous accueillons des marins de toute nationalité, il y a 45 nationalités de toute religion. Et donc ce foyer s'est mis en place petit à petit, à partir donc de 94, et on va célébrer, donc on continue, on peut-être fait plus de 20 ans, 25 ans, quoi, qu'on accueille. Aujourd'hui, il y a une permanente d'eau qui est payée parce qu'on a réussi à ce qu'il y ait une taxe portuaire, du welfare seamen, c'est-à-dire de bien-être des marins. Et avec ça, on arrive à payer le demi-salaire d'une permanente. Et puis, il y a une quinzaine de bénévoles qui, chaque soir, sont là pour accueillir les marins. Les marins qui viennent soit écrire un mail, avant c'était téléphoné, ou comme ça. C'était très important le téléphone. Je m'en souviens un jour quand je faisais moi-même l'accueil là-bas, 10h du soir, 10h30 du soir, je ferme le foyer, et au moment où je partais, il y a un Syrien qui vient en courant, Siemens Club, open, open, mais it's closed, c'est fermé, mais il voulait absolument téléphoner chez lui, parce que son bateau partait à 4h du matin, et il fallait absolument qu'avant qu'il parte en mer pour encore une longue traversée de plusieurs semaines, il sache si son enfant était né. Il ne savait pas si l'enfant était né. Alors bon, j'ouvre le foyer, je l'aide à téléphoner là-bas en Syrie. Alors il avait une tête au départ, vraiment c'était tragique de le voir, je comprends, parce qu'il ne savait plus si sa femme était vivante, si l'enfant était né. Si... Et puis au fur et à mesure, je voyais son visage qui s'égaye, qui sourit, il est heureux. Et il a pu donner, il apprend qu'il a un fils, et il a pu donner le prénom à son fils, parce que dans les pays d'Orient, c'est le père qui donne le prénom. Ah, il sortait de là, il m'a embrassé, il dit... Bon, allez, on va ouvrir, qu'est-ce que tu veux, du vin, une bière? Non, je suis musulman. Bon, ben, on a ouvert du Coca-Cola. Bon, ça va avec toutes les religions, le Coca-Cola. Bon. Et donc, ça a été, voilà, des moments comme ça, quoi. Et puis, d'autres moments où des bateaux étaient complètement abandonnés, où il y a ceux du Resto du Cœur qui sont venus, les amis Xavier, et Georges et compagnie. Et là, c'est des fois une année entière qu'il fallait les accompagner, aller les voir, les encourager, débloquer avec le syndicat ITF, International Transport Federation, qui a un rôle important dans le monde maritime. Ça a énormément changé. Quand j'ai commencé il y a 20 ans maintenant, à 20 ans, les Russes, je m'en souviens des Russes qui étaient payés 1500, 150 000 francs, quoi. C'est l'équivalent de... Je vais pas dire de bêtises, mais 20 000 euros ou non, qu'est-ce que je dis 20 000 euros, 200 euros au mois, quoi. Et que maintenant, tout marin, avec les lois internationales, il y a au moins en Europe et en Amérique et tout ça, dans ces pays, au moins en Occident, tout marin est payé au moins 1 500 euros par mois. Il y a un accueil, ça a énormément... évoluer, voilà. Ce que je voulais partager avec vous. Et pour finir, j'aimerais vous lire notre père des pêcheurs et me rappeler cette histoire et que l'on vit souvent, Lionel et les prêtres. Des fois, vous savez, on nous appelle pour un deuil ou pour... Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais pouvoir partager? Comment transmettre le message? Puisque si on nous appelle, c'est pour transmettre un peu d'espérance. Et là, j'avais été appelé, c'était à peu près le même jour qu'aujourd'hui, c'était en fin juillet, début août, un bateau, le San Mateo, qui avait brûlé au large de Cap-Breton et qui avait brûlé, paf, comme la triste maison de Saint-Jean-de-Luz là, et tout a brûlé. Et mais en 5 minutes, il n'y a même pas le temps de mettre le bombard à l'eau, tout le monde a dû plonger, et il y a un des marins, Kevin, qui est mort sur dans ce naufrage là, cet incendie naufrage. Et donc on m'appelle, l'armateur m'appelle, est-ce que tu pourrais venir à la crémation à Biarritz pour nous accompagner? Alors moi j'ai dit, mais pouf, qu'est-ce que... Bon, j'arrive là, je vois le papa. J'ai dit au papa, vous souhaitez une prière? Qu'est-ce que... Oui. J'ai pas vu mon fils depuis 10 ans parce qu'on était fâchés, mais il était baptisé. Puis je veux qu'il y ait une prière. Bon, déjà, bon, merci Seigneur. Bon, il y a une entrée. Et puis je vais voir l'équipage. Et il y a un gars qui vient, qui m'embrasse très fort. Je dis, mais qui es-tu? Mais je dis, il me dit, mais je suis Mimoun de Biarritz. J'étais arrivé de, j'avais à peine 9 ans, 10 ans, j'étais arrivé du Maroc. Et toi, tu étais au quartier Pétricot, là. Et comme tout le monde avait des cadeaux à Noël et que moi, j'en avais pas, tu m'as pris dans la voiture, tu m'as mené à Décathlon, tu m'as dit, choisis un cadeau. Ah oui, je sais. Et tu as choisi un ballon en cuir, un ballon de foot pour jouer. Ah oui, oui. Ben ça, il se souvenait de ça. Donc, de suite, il y a ce. Et puis voilà. Et puis, bon, on commence. Et puis, il me montre l'hameçon. Moi, je viens de commencer la pêche. J'avais 42 ans, 43 ans. Et c'est lui, Kevin, qui m'a appris à pêcher. Et j'ai amené l'hameçon. C'est lui qui m'a appris à marrer les hameçons. Et j'ai amené pour lui dire merci. Bon, voilà, autant d'éléments qui fait que on peut célébrer. Voilà, on peut commencer. Hein, d'éléments humains. Hein. Et... j'avais fait un autre père des pêcheurs à l'occasion d'un autre naufrage que j'ai lu là. Et il y a un gars qui est monté, qui s'est mis à côté de moi. C'était un copain pêcheur de l'île d'Oléron, de là où était Kevin. Mais il me dit, mais ce qui vient de lire la prière, ça c'est notre prière. Est-ce que je peux la prendre? Parce que demain je dois aller sur la plage faire un hommage à Kevin avec les copains, ses copains, et je vais leur lire cette prière. Je lui dis, écoute, tiens, elle est à toi. Et lis-la et mets-la là où tu veux. Et cette prière, la voici. Notre Père des pêcheurs, notre Père, que ton ciel est bien loin quand nous perdons nos amis pêcheurs en mer. Ils ont donné leur vie par amour de leur famille. Des gars super. Tu nous les avais donnés, nous te les confions, ainsi que tous les disparus en mer. Que ton nom soit sanctifié, que les gens de mer soient aussi respectés à bord, que l'environnement maritime soit respecté, ainsi ton nom sera aussi sanctifié en mer. Que ton règne vienne parmi nous, en tirant ensemble les filets de la justice, de la paix et du partage. Que ta volonté soit faite, grâce à celles et ceux qui mettent en premier la valeur de la personne et non l'argent. Ce que tu veux, c'est que l'homme vive de son métier et fasse le bonheur autour de lui. Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous du travail et du poisson, mais pas à n'importe quel prix. Donne-nous l'amour de la famille qui va du bateau à la maison et de la maison au bateau. Que cet amour nous aide à prendre soin de la sécurité, car nos épouses et nos enfants attendent notre retour à terre. Ne nous laisse pas succomber à la tentation du chacun pour soi, la tentation de la division, les uns contre les autres. Mais délivre-nous du mal, de la peur, du découragement qui nous paralyse, du manque de confiance dans nos capacités mutuelles. Garde-nous solidaires des petits et des pauvres, fais de nous des bergers de l'océan, aide-nous à mieux vivre ensemble en mer et à terre. Garde-nous unis à nos amis péris en mer. On donnerait tous nos bateaux pour les délivrer. Et toi, tu donnes ta vie pour les sauver. Amen. Amen.
Avec les gens de la mer comme signe de l'Église dans un engagement d'humanité, vous venez de suivre la seconde et dernière partie du témoignage de l'abbé Michael Epalsa, prêtre aumônier des pêcheurs, témoignage enregistré le 26 juillet 2022 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.